Alors, Jean-Claude Matroyenne, je suis journaliste belge, un quotidien qui s'appelle Le Soir, et on m'a demandé d'animer ce débat qui s'appelle Western, la frontière ultime de la Terre à l'espace. Alors, à mes côtés, il y a Laurence Humer, la seule femme donc immédiatement reconnaissable, suisse, qui fut scénariste de BD, qui l'est peut-être toujours, et qui vient de commencer chez l'Atalante. Une trilogie de Planet Stories, de Space Opera, de Planet Opera, enfin de science-fiction, qui s'appelle Candica, et dont le premier tome a été baptisé Vestige. À sa droite, Gilles Servat, qui est un peu le chanteur de la culture bretonne, musicien, chanteur, poète, mais aussi écrivain de science-fiction, avec toute une série de. Donc, il s'appelle Arcturus, fantasy, poétique.
L'épopée fantastique.
L'épopée fantastique.
C'est ce que dit l'éditeur.
Et je crois que le 7e tome des produits vient de paraître chez l'Atalante aussi. À ma gauche, Benoît Sancan, dessinateur, scénariste de BD et de jeux vidéo, le créateur de Canardo, que tout le monde connaît ou devrait connaître, et qui vient de. Commencer avec Kra, un cycle de western. De western. Christian Léourier à sa gauche, auteur de science-fiction aussi bien pour les adultes que pour la jeunesse, qui écrit depuis longtemps et qui remporte un des grands prix imaginaire de ce soir avec la réédition de son cycle de la main, spécialité plutôt planète opéra, l'espace, les planètes. Et enfin, à sa gauche, Christophe Blain, auteur de BD aussi, qui oscille entre les genres, puisqu'il a fait et des genres politiques et des pirates, et maintenant du western avec Gus. Et on va parler maintenant du western. Alors, le western, vous savez, est un genre cinématographique et littéraire, mais surtout cinéma dans nos consciences ou dans notre inconscient. Qui est un peu l'ultime frontière vers où le monde américain s'en est allé. Et en science-fiction, il y a l'ultime frontière qui est maintenant l'espace. Voilà ce qui doit réunir le fil rouge de ce débat. Donc moi, je vais d'abord demander à nos deux auteurs de BD pourquoi, après avoir fait d'autres choses, ils se sont attaqués au western. De loin.
Pour moi, c'est pas un genre en soi. Je voulais raconter une histoire dans le Grand Nord. Et cette histoire, par les besoins du scénario, se passait en 1920. Donc, le Grand Nord, 1920, ça fait la fin du western. Dans le même, comme on l'entend habituellement dans la littérature ou dans le cinéma. Ça s'arrête là. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est, dans toutes les histoires que je raconte, c'est plutôt le Far West, c'est-à-dire les univers qui ont encore potentiellement des choses cachées, des choses à découvrir. C'est ça qui m'intéresse, et c'est en ça que tout ce que je fais sera proche du western, parce qu'au fond, c'est vraiment ça, le western, c'est les immigrants, c'est les gens qui découvraient au fur et à mesure que leur roulotte avançait, qui découvraient de nouveaux paysages. C'est ce qu'on a toujours rêvé en lisant nos livres d'enfants, en lisant Jules Verne, en lisant tout ça. Voilà.
Et Christophe
Le western, pour moi, c'est l'univers que je préférais quand j'étais enfant. C'est chez moi. C'est pour ça que j'ai fait un western, mais j'ai mis longtemps avant d'en faire un. Enfin, j'avais commencé avec un auteur, avec David B, mais scénariser moi-même mon propre western, je n'osais pas, parce que j'aimais tellement ça que j'avais l'impression que je buterais à ma fascination puérile et que je serais capable de raconter une histoire intéressante. Et j'ai attendu 35 ans. 35 ans, je me suis dit, bon, maintenant ça va bien. T'écris toi-même tes propres salades et ça suffit. C'est comme ça que j'ai abordé le western. C'est le genre, enfin, je ne sais pas, c'est quelque chose qui m'a frappé quand j'étais enfant à travers la bande dessinée et le film, beaucoup. quand je vois un western, si je vais sur les lieux du western, arriver sur les voyages, je me sens complètement apaisé, je me sens bien, je suis en accord avec moi-même.
Mais vous n'avez pas peur des aliens. Et vous n'avez pas peur des aliens.
Si, j'ai très peur des aliens. Je ne suis pas du tout du côté des aliens, je suis du côté des quoi. La façade, pour la bien-pensance, oui, je suis ami des Indiens. Dans une conversation avec moi-même, les Indiens, c'est des sauvages, ils font peur. Pas du tout, moi je préfère les cow-boys habillés de manière très très vulgaire, les chapeaux, etc. Et j'ai pas du tout les Indiens pour faire. Mais pour la bien-séance commune, oui, évidemment, je suis un ami des Indiens, je ne suis pas du tout un cow-boy réactionnaire.
Laurence, le western, ça a influencé votre idée d'entrer dans la science-fiction?
Oui, en fait, quand j'étais petite, c'est comme lui. Mes parents regardaient toujours ce qu'on appelle le western du vendredi soir. Et en fait, j'ai une immense culture de western quand j'étais enfant. C'est vrai que c'est mon premier lieu d'évasion. Mais ça a très vite glissé vers la science-fiction parce que j'avais envie d'aller pas plus loin. Hein. Mais c'est vrai que, étant petite, j'adorais les Indiens, justement. J'étais toujours du côté des Indiens. Et le côté sauvage, mystérieux, l'inconnu, l'autre, etc. qu'on retrouve dans mes thèmes de science-fiction.
Pour Gilles aussi, le western, ça a influencé le western, geste arthurien,
Bon, moi, j'ai comme tout le monde, j'ai été voir plein de western quand j'étais jeune et même j'y viens maintenant toujours, des fois, mais je trouve que les westerns sont arrivés dans une truc un peu systématique. Par contre, j'ai eu la chance de lire quand j'étais ado, toute une suite de romans qui parlaient du chef indien Tecumseh. Et ça s'appelait Flèche volante, après Tecumseh le Puma, je ne m'en souviens plus, il y a le troisième, le quatrième, c'était le fils de Manitou. Et c'était l'histoire d'un chef indien qui a existé. Mais c'était bien avant ce qu'on appelle le western, ça se passait dans l'Ohio. C'était encore, il a lutté contre les Anglais, etc. Il a fait des... C'est tout à fait... Ça m'a beaucoup influencé parce que on découvre la civilisation et la culture de ces gens-là dans les bouquins. C'est des bouquins d'aventure, hein, avant tout, hein, quand même. Il ne faut pas non plus tomber, c'est pas le... Mais bon, c'est des gens qui changent de nom. Il a changé de nom. Les gens changent de nom dans mes romans aussi, suivant leurs aventures. Et puis, on peut faire un parallèle entre l'histoire du roi Arthur, pré-Moyen-Âge, sans l'influence de la lignée d'Aquitaine et de Brocourtois et tout ce bazar, mais beaucoup plus brut. Et c'est quelqu'un qui a essayé de réunir toutes les nations indiennes pour lutter contre l'invasion des Anglais, et qui a livré des batailles, qui en a gagné une belle d'ailleurs, au Grand Kanawha, et qui a été tué dans une autre bataille après, et qui a essayé aussi de restaurer une espèce d'union religieuse des Indiens face à la religion des Blancs. Enfin, donc ces romans m'ont beaucoup influencé, et m'influencent toujours, certainement.
Christian, l'espace et les planètes que vous découvrez et expliquez, c'est aussi... la nouvelle frontière, la frontière ultime, comme disait Benoît Sokal tout à l'heure, l'inconnu qu'on découvre.
Oui, effectivement, je pense que c'est une constante. Dans la littérature, au XVIIIe siècle, on découvrait des îles extraordinaires, peuplées de gens pas comme nous. Au XIXe siècle, c'était le Far West, et puis on est arrivé, à force de repousser la frontière, jusqu'à l'océan Pacifique, donc il a fallu chercher ailleurs, et on a enlevé les yeux en l'air, et donc la frontière, maintenant, c'est les Américains ont une expression pour qualifier d'ailleurs la conquête spatiale, ils appellent ça, c'est high frontier. C'est ce qui explique bien cette idée qu'on repousse à chaque fois l'horizon inconnu au-delà. Et effectivement, on retrouve dans la conquête du Far West ou dans la conquête spatiale que peuvent décrire les romans de science-fiction, on découvre des thèmes communs qui est le désir d'aller plus loin, qui est la rencontre avec d'autres, mais des gens qui ont d'autres mœurs, d'autres... d'ailleurs, souvent, dans les, ce qu'on appelle le space opéra, et c'est par hasard, c'est beaucoup développé aux États-Unis. Vous savez que la science-fiction, même si les Américains n'ont pas forcément inventé, c'est quand même un genre essentiellement anglo-saxon. Et c'est par hasard si dans les années 50, dans les Pulse, les space opéras décrivaient des confrontations. confrontation avec les extraterrestres, etc., qui ressemblait beaucoup finalement à ce qu'on pouvait voir par ailleurs dans les westerns lorsqu'on faisait intervenir des rencontres avec les groupes.
Christophe et Benoît, alors que le western est un genre moribond aujourd'hui, vous y arrivez enfin, vous, n'est-ce pas paradoxal?
L'avantage du fait qu'il soit moribond, c'est que il appartient au dernier, ceux qui on dépouille son cadavre, on fait ce qu'on en veut, quoi. C'est un genre qui n'existe plus, qui, je ne sais pas s'il renaîtra un jour, on ne sait jamais, les modes peuvent. Mais c'est justement intéressant de pouvoir l'apprendre pour soi, parce que maintenant c'est devenu encore plus qu'avant un espace imaginaire assez abstrait finalement. Moi je le considère comme ça. C'est peut-être le lien d'ailleurs qu'il y a avec la science-fiction, c'est devenu complètement abstrait. Les enjeux qui sont décrits dans le western, finalement, les enjeux tangibles ne sont pas si importants que ça dans les films qui sont de la conquête, qui sont en rapport avec les Indiens. Quand on regarde bien, moi je considère que c'est essentiellement des problèmes de tragédie, des problèmes de psychologiques, des problèmes sentimentaux qui sont décrits dans les westerns. Et que le décorum, l'aspect tangible du western, ce qu'il représente vraiment dans la vraie vie, finit par s'effacer. C'est un décorum dont il ne reste plus que la caricature, dont les gens ne connaissent plus que la caricature. C'est très intéressant parce que, par exemple, on a fait un débat où il y avait des auteurs américains, et on était trois Français, et les trois Français étaient vraiment les détenteurs du western. Les trois Américains, on avait strictement rien à foutre. Ça ne les intéressait pas du tout. Et quand on les avait exprimés, le western disait bah, d'abord, le western, pour nous, c'est un lieu. Enfin oui, bien sûr, c'est des histoires très concrètes, c'est des histoires de bouseux, enfin, c'est généralement des choses qui se déroulent dans une période extrêmement courte, qui a duré 25 ans, entre 1865 et 1900, grosso modo. Souvent les Américains, quand on en parle, ils s'en foutent complètement, ils n'habitent plus du western que l'image de la caricature, notamment quand on fait les Européens et les Italiens. Ou alors de quelque chose d'extrêmement vieux jeu, réactionnaire, mais ils ont complètement oublié l'imaginaire et la création artistique qui a été développée, et même éventuellement politique, et enfin, des choses qui ont été développées dans le western par beaucoup de essentiellement cinématographique, mais à l'origine littéraire. Et le cinéma a beaucoup puisé dans la littérature western. Et donc c'est devenu un lieu imaginaire dans lequel on peut mettre absolument ce qu'on veut. C'est un lieu de... C'est comme les contes de Grimm ou de Perrault, quoi. Ça se passe quand? Quand est-ce que ça se passe, les contes de Grimm? Au Moyen-Âge ou à la Renaissance, on ne sait pas. Il y a des princesses, il y a des chevaliers, mais ils sont où? Il y a des châteaux. On ne sait pas trop, en fait. C'est un lieu imaginaire dans lequel on met ce qu'on veut. On met des éléments historiques quand on en a besoin, et puis on s'en éloigne quand on veut. Ou alors, on l'investit d'une manière très précise, justement, pour prendre contre-pied, en prenant des éléments historiques très, très... Et puis, à ce moment-là, on fait bon, ouais. Mais il y a très peu... Il y a quasiment aucun western, pour ceux que je veux connaître, qui sont proches d'une réalité. Il y a très peu de westerns qui ont vu les choses telles qu'elles se passaient, parce que c'était vraiment pas très intéressant. La vraie vie n'était pas très, très intéressante. Ou alors, du point de vue d'un destin, du point de vue d'une... Mais ce qui est développé dans le western, généralement, ce qui fait le cœur des films de western tels qu'on le connaît, n'existait pas dans l'histoire. Pas du tout comme ça. C'était beaucoup moins flamboyant.
Et Benoît?
C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses dans le western. Pour compléter ce que dit Christophe, c'est vrai que... C'est Christophe? Oui. Il y a un côté extrêmement codifié, je pense. En y réfléchissant comme ça, je me dis que le western doit être le genre le plus codifié, encore plus que le roman policier, parce que le décor est extrêmement précis. C'est la rue avec le saloon, vous voyez, les planches de bois, etc. Les chevaux, les protagonistes, le shérif, le cow-boy, le bon, le mauvais, le joueur de cartes, ce que Lucky Luke a caricaturé encore plus, que d'autres encore ont caricaturé, mais à y réfléchir, je ne vois pas de genre plus caricaturé. Et à côté de ça, il y a quand même, le western n'est pas mort, parce qu'il y a, c'est, par exemple, pour ma génération d'auteurs de bandes dessinées, un film comme Il était une fois dans l'Ouest a vraiment influencé le cadrage, la manière de faire. On était juste avec des tas d'auteurs de bandes dessinées, à moitié avoués ou pas du tout avoués, ou totalement avoués, ils disent Il était une fois dans l'Ouest m'a influencé. Donc, et aujourd'hui, le western, moi je ne le vois pas s'arrêter en 1900, je le vois continuer. Il y a des auteurs américains, Jim Morrison par exemple, pour moi ça reste du western. Alors qu'il écrive des romans plus historiques comme Les gens de l'automne, des choses plus actuelles, ça reste l'ouest américain et le western. Et puis encore une fois, bon, il y a le Far West, lui il existe toujours, qu'il soit en l'air, à droite ou à gauche, celui-là il existera, ça sera toujours le moteur de la littérature ou du cinéma, et c'est ça, à ça que moi je m'accroche en fait.
En fait, le western, c'est pas que l'histoire de décor, même s'il est important, c'est aussi une histoire de personnages. Le western, en fin de compte, sont des gens qui sont des héros, qui trouvent leur identité en voyageant ou en tuant des bandits. Est-ce que cette importance des personnages, elle est aussi dans la science-fiction, Laurence?
Bien sûr, en fait. Dans mon livre, je mets en scène une colonie, la plus lointaine colonie humaine, c'est toujours une colonie. C'est la multiple frontière, justement, mais dans l'espace, sur une exoplanète habitable mais gelée en glaciation. Et bien sûr, c'est l'histoire de ces colons. Il y a un mouvement, justement, séparatiste, c'est-à-dire que qui se considèrent comme les premiers habitants, les réels habitants qui sont nés sur place, et ceux qui et les colons. En fait, il y a un démarquage entre ces deux populations. Il y a un mystère, puisqu'il y a une civilisation qui a laissé en orbite un gigantesque vaisseau. Il y a des ruines enfouies sous les 4 km de glace. Enfin, il y a toute une dynamique entre les personnages. Et c'est une quête. Il y a de l'aventure aussi. Donc, on peut dire oui, c'est basé sur le thème du western, quoi qu'il y ait quelque chose de différent, donc, puisque je ne considère pas ce livre comme un space opéra, mais plutôt comme un planète opéra. Il y a une dimension scientifique, en fait.
Quelle est la différence entre space opéra et planète opéra?
Alors, space opéra, disons que moi, comme je la vois, c'est vraiment une action, c'est très romanesque, etc. Bon, je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour donner une définition du space opéra. Planète Opéra, c'est plus axé sur une planète avec des réflexions sur la science, sur la recherche, comment cette planète est découverte, les implications scientifiques. Ça, c'est ma perception du bouquin.
Tout à l'heure, Christian Léoury, à qui je disais, toi, tu fais du Space Opéra, il m'a dit, ah non, moi, je fais du Planète Opéra. Alors, lui, il pourra peut-être encore mieux, d'une façon plus pertinente, de donner la différence.
Pour fixer les idées, je dirais que Space Opera, c'est Star Wars, et Planète Opera, c'est Solaris. Je ne sais pas si vous avez vu les films. Mais en gros, ce qui est en jeu dans un Space Opera, c'est la confrontation entre plusieurs camps qui vont s'affronter. Le Planète Opera, c'est la description d'un système cohérent, d'une civilisation, d'un monde, ou d'un ensemble écologique, s'il n'y a pas de civilisation. Justement, si je veux rebondir sur cet aspect civilisation, il y a un aspect du western qui m'a toujours semblé assez fascinant. C'est quand on parle de frontières, il y a certaines frontières, je dirais, géographiques, c'est-à-dire que d'un côté, il y avait des villes, etc., de l'autre côté, c'était les grands espaces. Mais il y a aussi une frontière du droit, c'est-à-dire que dans le western, on est dans une zone où se crée la civilisation, c'est-à-dire où se met en place le droit, le shérif est là pour justement dire on n'est plus dans la loi de la jungle, on est là dans un système constitué. On trouve ça également souvent dans la science-fiction. Alors c'est pas exprimé comme ça, il n'y a pas jusqu'à présent de jurisprudence fiction, mais on a cette idée qu'une civilisation se met en place à travers des colons, des institutions, quelquefois en confrontation ou en relation avec d'autres civilisations. Dans le cas de l'Ouest américain, ça a été en confrontation. Je veux dire, les Indiens n'ont pas apporté grand-chose en termes de droits aux Américains, sauf au début, puisque la Constitution quand même américaine s'est pas mal inspirée. Jefferson connaissait très bien la Ligue des Hurons, il s'est pas mal inspiré de la façon dont les Hurons et les nations huronnes se sont... c'est pas les Hurons, c'est les autres, c'est les...
Iroquois.
Les Iroquois. La façon dont les nations Iroquois se sont... voilà. Donc, quand on parle de frontières et quand on parle effectivement d'horizon, etc., il y a aussi cette dimension de reconstruire ou de construire des institutions, un mode de fonctionnement pour les individus. Et ça, c'est typiquement, je dirais, le planète opéra.
Il n'y a pas que les personnages dans vos romans science-fiction, mais il y a aussi, en tout cas chez Laurence et chez Christian, toute une interaction scientifique. Et ces vestiges, je crois que Christian a écrit aussi La planète inquiète, où là aussi il y a un vestige, une civilisation extraterrestre dont on ne connaît rien. Autour de la planète Derma de Laurence, il y a un astronef qui est en gravitation perpétuelle autour de ce monde-là, de cette planète, et on ne sait pas très bien d'où il vient, etc. Donc, contrairement au western, où je crois que cet aspect-là n'existe pas, il y a en science-fiction une recherche scientifique aussi aux origines de quelque chose. Expliquez-moi un peu ça, Laurence.
Oui. J'ai toujours été fascinée par la science, par l'astrophysique principalement. Donc, c'est naturel pour moi de traiter des problèmes liés à l'astrophysique et à la physique. Donc, pour moi, c'est un cadre idéal. C'est vraiment pour avoir des réflexions sur les sujets qui me passionnent. Et ce qui était très intéressant, c'est que j'ai voulu donner une crédibilité au bouquin, donc j'ai bossé avec les astrophysiciens de l'équipe de Michel Mayor, qui était l'un des premiers découvreurs d'exoplanètes, en fait, l'observatoire de Genève. Et ils m'ont créé mon système planétaire. Donc ça, je trouvais très intéressant. Ils m'ont rendu crédible. Donc, il y a un double enjeu. Pour moi, il y avait bien sûr l'enjeu romanesque, puisque là-bas, ça racontait une histoire. Et en plus de le placer dans un cadre scientifique qui était très alléchant pour moi, en fait. Très enthousiasmant d'avoir une petite base scientifique. Et il y a des problématiques liées à la physique aussi dedans. Donc, je me suis éclatée de ce point de vue-là aussi. En plus des personnages, de l'intrigue, etc. Mais j'ai pu y aller, en fait. Avec mes délires scientifiques.
Est-ce que ça veut dire que la science-fiction que vous faites est un genre plus sophistiqué que le western?
Ouh, alors là, je ne me permettrai pas de dire ça. C'est simplement, je pense que c'est juste un choix. Quand j'étais petite, j'aimais beaucoup le western parce que c'était l'évasion. Dans ce bouquin, j'ai voulu aussi parler de l'évasion, c'est-à-dire on est sur un monde étranger. Il y a effectivement des sujets scientifiques, puisque du fait, en fait, de la problématique liée à ce vaisseau, à ces vestiges, etc., qu'on essaie de comprendre, on essaie de découvrir ce qu'il y a sous cette carapace de glace. On se demande, est-ce que la glaciation est naturelle ou pas? Donc, effectivement, il y a des choses scientifiques sophistiquées, entre guillemets, qui apparaissent dans le bouquin, simplement pour servir l'histoire. Maintenant, voilà, c'est toujours une histoire. Donc, mon but, c'est toujours principal, de raconter une histoire. Donc, voilà, je pense que...
Et les épopées fantastiques de Gilles Savran, ils suivent aussi la même trame de Cowboy Indien ou Cowboy hors la loi?
Oui, peut-être. Cowboy hors la loi, je ne sais pas. Mais moi, j'ai découvert le monde disons, celtique pré-chrétien en traduisant ou en lisant des textes irlandais anciens. Et j'ai eu envie de raconter des histoires qui se passent dans une société comme ça, qui me rappelait un petit peu TQC d'ailleurs. Mais je ne voulais pas être embêté par l'histoire, je ne voulais pas être embêté par tous ces trucs-là, et je voulais donner libre cours à mon imagination. Donc j'ai placé ça sur une planète, et c'est un peu une planète opéra à ce moment-là. Donc il y a des gens qui viennent d'une planète qui ressemblerait à la Terre peut-être dans un siècle ou deux, qui arrive sur cette planète. Il y en a un qui arrive déjà et qui découvre, donc il y a cette espèce de découverte comme un western. Et lui, il s'intègre, si on veut. Et puis, il a un
ses amis qui arrivent aussi sur la planète et qui lui s'intègre moins. Il garde, lui, là, il a la chance de garder son astronef alors que l'autre a explosé. Mais bon, donc on découvre avec notre regard un petit peu cette société. Et puis dans le, un jour, il y a toute une invasion d'extra. La planète s'appelle Bray, donc c'est des extra-Brésil, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et là, on découvre encore une autre chose. Et là, il se passe des bouleversements, en particulier des bouleversements dans celui-là. La société, c'est une société avec trois, les druides, les guerriers et les producteurs. Et puis, il y a un royaume où les druides et les guerriers vont disparaître probablement. Donc, c'est les producteurs qui vont être obligés de se prendre en charge et de lutter contre eux. Donc, ça fait une révolution extraordinaire dans ce monde, quoi. Voilà. Mais c'est avant tout des romans d'aventure. Mais il y a ça aussi, ouais, cette espèce de rencontre de choses, de peuples différents, et comment ils peuvent s'adapter les uns aux autres, comment ils peuvent s'intégrer, et comment ils peuvent se refuser, comment ils peuvent essayer de dominer les autres par la religion, etc. etc. Voilà.
C'est aussi ce que Christian fait dans sa science-fiction, aussi bien pour la jeunesse que pour les adultes, c'est-à-dire de ne pas se contenter de raconter une histoire aventureuse, mais aussi de faire réfléchir les lecteurs.
Oui, parce qu'en fait, dans nos instructions, il y a le mot science, mais la science n'est pas l'objet principal de la plupart des romans. Hein, on s'appuie sur les derniers développements de la physique, ou de l'astrophysique, ou de la technique, pour écrire un roman, pour raconter une histoire. Et le but, le final, c'est finalement de s'interroger sur la place de l'homme dans l'univers. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous sommes seuls? Est-ce que voilà. Tout à l'heure a été prononcé à propos du Western le terme de tragédie. On retrouve également dans la geste de Coroline ou dans les romans arthuriens cette dimension tragique qui est que bon, on a intuitivement l'idée que l'homme a une place à occuper dans l'univers, mais on ne sait pas laquelle. Donc, et ça, c'est une constante d'une bonne partie de la littérature hippie, une bonne partie du western, de la science-fiction, où l'idée, c'est quand même d'amener le lecteur ou le spectateur à s'interroger sur le destin, et est-ce qu'il y a un destin, est-ce qu'il y a un rapport, est-ce qu'il y a une cause à tout ça, est-ce qu'il y a une raison à tout cela. Donc effectivement, dans le cycle de Landeur, c'est la question principale, puisque je décris un univers hautement improbable, et qui est perçu comme hautement improbable, c'est-à-dire que la civilisation de Landeur, à mesure qu'elle s'étend dans la galaxie, découvre des planètes peuplées par des hommes, ce qui, biologiquement, est impossible. Il ne peut pas y avoir deux développements évolutifs qui aboutissent au même résultat. Donc il y a une vraie question. Et tout le cycle est qu'il faut résoudre cette question.
Est-ce que dans les westerns que vous dessinez, il y a aussi ce double niveau de lecture, l'aventure simple, et puis un peu la réflexion sur le devenir de chacun, Christophe?
Moi, j'utilise le western comme prétexte. Enfin, c'est compliqué parce que moi, je parle pas du tout cet aspect du western dans mes bouquins. Je comprends ce que vous disiez tout à fait bref. C'est vraiment le questionnement c'est des miroirs sur la société. Et le western raconte une société en construction, en finissant, qui a passé dans une autre étape de l'inconnu. Les problèmes dans le western sont essentiellement des problèmes très pragmatiques. Même très complètement économiques, hein, qui sont décrits, les personnages ne sont jamais mus par l'idée de la découverte. Il y a l'idée d'un inconnu ou d'une nature qui est très présente, qui peuvent prendre de manière hostile, ou au contraire s'épanouir. Mais leurs problèmes sont essentiellement économiques, ce qui existe aussi dans la science-fiction, mais il y a beaucoup moins de mystère. Les enjeux sont souvent beaucoup plus des enjeux de huis clos, finalement. Dans les westerns, même si on décrit, mais même quand on va décrire des pionniers, quand on va décrire un convoi de pionniers, finalement, ça raconte un huis clos, c'est très théâtral, c'est ce qui va se passer dans le convoi, c'est ce qui va se passer. Voilà. Alors que la science-fiction permet de, euh, de, on nous raconte ce qu'on veut finalement, et tout en étant évidemment en permanence un miroir de ce qui se passe. C'est une interrogation sur ce qu'on, effectivement, sur la place qu'on a. C'est une interrogation métaphysique beaucoup plus vaste. Enfin, ça peut être très vaste quand on étudie l'intime. Voilà. Moi, je dis l'intime dans mes westerns, et finalement, mes westerns sont des comédies sentimentales. Quand je dis sentimental, c'est aussi ça part d'histoire d'amitié, d'histoire d'amour, etc. Et ça part de l'imaginaire. Ça part des personnages qui sont conscients de l'imaginaire qu'ils génèrent, qui jouent avec, et qui se. Donc les enjeux par rapport à ce qu'on a évoqué dans la science-fiction sont beaucoup plus restreints, sont complètement différents. Mais effectivement, c'est très intéressant d'étudier le parallèle entre la science-fiction et le western. Le western est très. On retrouve les aspects du western dans la science-fiction, mais que par moment, en fait. C'est un des aspects de la science-fiction. Il n'y a pas de rapport qualitatif entre la science-fiction et le western, mais c'est vrai que la science-fiction, par définition, puis même la science-fiction, on dit la science-fiction, mais on parle du space opera, qui n'est pas la même chose, parce que Star Wars, c'est de la science-fiction. Star Wars utilise en partie des éléments du western, des éléments physiques et des éléments narratifs. Et il utilise aussi d'autres choses. La science-fiction, c'est un réceptacle en fait de tous les autres genres et de toutes les interrogations, les types d'histoires. Enfin, ça utilise aussi la légende, ça utilise l'historique, le cap et l'épée, le Moyen Âge. Voilà, on retrouve l'interrogation sur les sociétés primitives, la construction d'une société, la confrontation à d'autres sociétés primitives, la dégénérescence de notre propre société Le lien avec le western, c'est essentiellement la terre neuve dans laquelle il y a on établit des codes au départ très simples parce qu'il faut y survivre et qui sont devenus des codes narratifs. Finalement, l'histoire du western en tant que genre est plus grande que l'histoire du réel qui est traité dans le western. L'histoire cinématographique du western est presque plus riche que le moment historique. C'est ça qui est fascinant dans le western, c'est que investi par le cinéma. Je pense peut-être aussi pour des raisons pragmatiques, parce que les Américains pouvaient le tourner très facilement. C'était là, et puis il n'y avait pas besoin de beaucoup de choses finalement pour tourner un western. C'est très minimal. Et le cinéma étant un art qui est devenu très rapidement dominant, parce que c'est le plus fascinant. J'ai mon copain Lodge qui dit que c'est l'art officiel. Et donc il a pris. C'est l'art dominant et c'est l'art officiel, c'est celui qui est le plus fascinant. Voilà, donc ça a pris une place énorme par rapport aux enjeux qui étaient décrits au départ. Mais il y a effectivement un lien avec la science-fiction, et c'est vrai qu'on retrouve aussi ça par rapport à la fascination pour la science-fiction. Mais la science-fiction, hein, j'ai l'impression, j'ai l'impression que la science-fiction traitée en littérature garde quand même une place très forte. Il y a les enjeux par rapport à celle qui elle est. Comment dire Et je ne sais pas si. Moi, je me pose la question. Je ne sais pas si le cinéma a puisé, dans le cadre de la science-fiction, autant dans la littérature qu'il a puisé que le western dans la science-fiction. Enfin, je pense que c'est la littérature de science-fiction existe beaucoup plus pour elle-même, hein, j'ai l'impression. Elle permet de traiter les choses différemment que dans le cinéma. Bien que le cinéma ait un pouvoir d'attraction phénoménal.
Ça coûte moins cher d'écrire un bouquin que de faire un film.
Science-fiction.
Et les interrogations, il y a beaucoup plus d'interrogations métaphysiques. Il y a un champ d'exploration qui est différent de celui du cinéma.
Benoît, puisque vous faites aussi des jeux vidéo, vous n'avez jamais pensé à faire des jeux vidéo galactiques ?
Galactique, c'est un grand mot. Moi, de toute façon, je ne fais pas de distinction entre, en tout cas quand je commence à imaginer l'histoire, entre le western, la science-fiction ou même le polar. Avatar, c'est un western, ou est-ce que c'est de la science-fiction où il y a des Indiens bleus et des cow-boys de métal, mais c'est exactement les mêmes codes que le western. Pardon ?
Oui, tout à fait.
Pareil pour le. Il y a certains. Au nom de la rose, est-ce que c'est un roman de chevalerie ou est-ce que c'est un polar ? On n'en sait rien. Donc, et c'est bien d'ailleurs, c'est bien que tous ces genres se mélangent. Moi, je ne fais pas, en tout cas personnellement, quand je commence une histoire, je ne fais pas la distinction. Alors, pour vous répondre à votre question, dans le jeu vidéo, ça ne m'intéresse pas. Je fais plutôt des découvertes de pays imaginaires, des espèces de. Oui, des pays, mais qui seraient quand même sur Terre, mais qu'on aurait oublié. Un petit peu comme Franquin faisait la Palombie ou Hergé faisait le Sentier des Roses. Moi, je préfère imaginer ce genre de pays parce que j'ai du mal, par contre, à faire l'aspect science dans le mot science-fiction. J'imagine que dans les années 50-60, c'était assez facile de faire de la science-fiction. Dites-moi si je me trompe, parce que moi, je ne suis pas un spécialiste du genre comme ça. Mais la science, c'était quelque chose de plus abordable, de plus simple à comprendre. C'était de la physique, de la chimie, de la mécanique. Maintenant, la science est plus subtile, etc. Et en tout cas, moi, personnellement, j'ai du mal à imaginer tous les paramètres. Comment elle peut être la vie sur une autre planète, à quoi ça peut ressembler, combien de temps on met pour y arriver, etc. Alors, par exemple, là, je suis en train d'imaginer un récit de science-fiction et j'ai d'abord imaginé une planète comme ça, quelque part dans l'univers, et puis je me suis rendu compte que je ne dominais pas l'affaire, parce que je ne savais pas justement toutes les interactions possibles entre les planètes, où on va, combien de temps ça met pour y aller, etc. Alors j'ai plutôt imaginé une planète rêvée, c'est-à-dire que par des connexions comme ça, un peu cognitives, on entre dans une planète. Donc c'est plutôt du rêve, c'est plutôt comme un thème qui se rapprocherait par exemple de celui de Matrix, parce que au lieu de... On va dans un rêve commun, mais on ne s'échappe plus dans l'espace, parce que moi, ça, je ne sais pas faire.
Une partie aussi des westerns, et particulièrement ceux d'Anthony Mann, montrent des gens solitaires, James Stewart, Alan Ladd aussi, dans Change, c'est un autre réalisateur, des gens qui passent à travers l'histoire et qui repartent tout seuls. Est-ce que ce genre de situation, je crois, n'arrive pas trop dans la science-fiction, Laurence?
Ça fait un là. Enfin, pas dans la mienne, mais moi, je peux tout à fait imaginer une histoire comme ça. J'ai d'ailleurs une idée en tête, en fait, avec un personnage.
Un solitaire.
Un solitaire, oui.
Et qui se cherche, lui.
Oui.
Voilà. C'est toujours une quête d'identité.
Oui. Mais je pense qu'on peut tout imaginer en science-fiction, donc je pense pas qu'il y ait tellement de limites. C'est un peu à chacun d'imaginer sa propre science-fiction, quoi. Donc, moi, je m'imagine très bien qu'il y ait une histoire pour l'homme cow-boy de l'espace.
Il y a d'ailleurs déjà un film qui a été tourné sur ce thème, qui s'appelle Monde Ouest, où le justicier est un robot.
C'est vraiment solitaire, c'est un robot.
Ah, il est solitaire parce qu'en plus, c'est un robot qui, évidemment, c'est pas drôle les robots parce que c'est des machines, donc les machines, ça fait toujours ce qu'on a envie que ça fasse. Mais là, il est détraqué, donc effectivement. Il est poursuivi à la fois par ses concepteurs et puis par les gens qui...
Mais il y avait un film, il y avait un western avec des robots. Il y avait un western...
Oui, c'est Monde Ouest, ouais.
C'est Monde Ouest, c'est Monde Ouest. Je n'étais pas sûr du titre. Ah, ouais.
Et puis il y a un western avec Daniel Craig, comment il s'appelle
72.
Ah, vous avez un vrai truc. Où les extraterrestres envahissent un espace de western avec Daniel Craig.
C'est Cowboy contre Aliens.
Voilà.
C'est vrai que dans ce film, on a mis nos deux sujets en même temps. On aurait dû prévoir une séance de ce film avant une projection de ce film.
Il y a deux sortes de solitaires comme ça. Il y a le solitaire qui arrive et qui reste ce qu'il est. Et il y a le solitaire qui arrive et qui découvre qui il est. Et ça, c'est très intéressant aussi. C'est un peu ce qui se passe dans les bouquins. Il découvre qui il est. Et la science-fiction, je trouve qu'il y a une facette de la science-fiction que j'appellerais la science-fiction imaginaire et fantastique. Parce que partir de la science actuelle pour... c'est bien. Quelquefois, quand on voit des films anciens, d'ailleurs, on rigole un peu parce qu'ils sont partis de leur façon de voir les choses. Et puis, quand on les voit maintenant, il y a par exemple des ordinateurs énormes. Et puis, il faut deux fusées pour les travailler maintenant avec une petite puisse en arriver à en faire autant. Mais il y a aussi, je parle de ce que j'ai fait, il y a un moment dans l'astronef du deuxième personnage, il a embarqué une fille, une princesse de la planète, là, et ils sont partis. Et elle se trouve en état d'apesanteur, et il lui fait une sculpture musicale. Donc je ne sais pas trop comment il peut faire ça, parce qu'on n'entend qu'avec deux oreilles, donc il y a des notes qui sont là, il y en a qui tournent autour, etc. Donc je ne sais pas comment il peut faire ça, mais c'est de la science-fiction magique, si vous voulez. Et c'est un rêve pour moi de voir des sculptures musicales. Il faut les entendre, pas les voir.
Donc, il n'y a pas de silence sur celui-là.
Merci. C'est de la science-fiction, parce que ça peut arriver, je ne sais pas, pourquoi pas. Peut-être que, en fait, elle comprend, mais qu'il lui a mis un truc dans le cerveau qui fait qu'elle entend des trucs qui tournent, je ne sais pas. Mais c'est de la science-fiction. Mais c'est imaginaire complètement.
Ouais. Ouais, y a pas mal de bouquins de science-fiction qui pensent à des nouvelles formes artistiques un peu totales, là où il y aurait de la musique, de l'art visuel, de l'art audiovisuel en même temps. C'est assez amusant. Mais en fait, on parle de genre ici, western, SF, fantasy, etc. Mais est-ce que tous ces genres, avec leur code particulier, ne sont pas des inventaires d'une même chose qui est la littérature populaire? On parle de tragédie, de vengeance, de découverte de soi. Est-ce que ce n'est pas la même chose depuis Alexandre Dumas, Jules Verne? Est-ce qu'on réinvente simplement les styles et les décors, mais on est toujours peut-être dans les mêmes motivations, Christian?
Alors effectivement, on peut dire qu'on a, on n'a pas inventé grand-chose depuis l'Iliade et l'Odyssée, mais je conteste le terme de populaire pour la science-fiction, parce que la science-fiction, c'est un genre qui est assez élitiste, quand même, pour dire ce qu'il y a. Bon, il y a une partie de la science-fiction qui est, et qu'on trouve notamment dans le cinéma, qui est de l'aventure, pour ça, avec un décor galactique. Mais souvent, c'est quand même une littérature un peu difficile à aborder. Et d'ailleurs, on le constate tout simplement par le lectorat. Le lectorat de la science-fiction est quand même restreint, que ce soit en France ou aux États-Unis ou partout dans le monde. Donc, il faut se méfier du terme populaire. Bon, le populaire, c'est à la fois... ça a deux sens. Le sens, c'est populaire parce que tout le monde aime ça. Bon, ça, c'est pas le cas, très clairement. Et puis il y a un sens péjoratif de populaire qui est porté par une culture dominante en disant tout ce qui n'est pas moi, bon, c'est des mauvais genres. Enfin, le policier, le western, la science-fiction, le fantastique, le fantasy, enfin là, vous pouvez décliner un certain nombre de choses. Et puis vous vous rendez compte que finalement, les frontières ne sont pas rigides. Ce qui crée les véritables frontières dans ces genres, ce sont finalement les contraintes d'édition et les collections. Mais vous avez des auteurs de littérature blanche qui ont écrit de la science-fiction. Robert Gary,
Robert Merle.
Bon. Alors, évidemment, quand vous dites ça à des gens qui n'aiment pas la science-fiction par principe, ils tombent des nues. Ils disent, ah bon, mais il n'y a pas de robots, il n'y a pas de... Ben non, mais c'est pas seulement ça.
Réaction à ce que je disais sur le roman populaire, donc le western, ou la SF, je ne sais pas quel avatar.
Pour rejoindre ce que vous disiez, populaire, je ne sais pas finalement qu'est-ce que ça veut dire.
Roman d'aventure.
Alors c'est de parler de choses qui vont être beaucoup plus accessibles, qui vont être faites pour une culture dite de masse, ou qui vont. C'est difficile à dire parce que la culture dite de masse a été reprise par des auteurs, elle est utilisée, le genre justement est repris pour refaire des choses et recycler. C'est des phénomènes qu'on connaît. Donc maintenant, c'est complètement brouillé. Ce qu'on pourrait. Il y a un aspect, parce que la science-fiction finalement, ça ne veut pas dire grand-chose. Enfin, ça veut dire. C'est généralement quand on utilise des choses d'une science qui est un peu plus développée que ce qu'on connaît, par exemple le voyage dans l'espace, qui est relativement rudimentaire par rapport à ce que l'imaginaire, on ne peut pas voyager dans l'espace comme on voyage sur les océans. En fait, c'est à peu près le même, c'est ça la question, c'est que, et on a du mal à imaginer quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est une manière de projeter ce qu'on connaît déjà sur Terre, finalement. Alors parfois, d'aller jusqu'à l'imaginaire, de brouille les dimensions, la musique, la sculpture, je ne sais pas. mais finalement c'est une extension de ce qu'on connaît déjà. Et donc c'est très difficile, c'est, ça peut être que ça, c'est à peu près ça la science-fiction, mais ça, c'est tellement vaste que c'est très difficile à définir comme genre. Après on doit définir des sous-genres. Le western c'est un petit peu plus facile. Donc il y a des sous-genres du western, mais là pour le coup c'est vraiment plus restreint. Et ça parle de quelque chose de beaucoup plus précis. La science-fiction par définition c'est pas tellement précis. C'est des choses qui sont dans le futur, mais c'est très très vague. Voilà. Mais il y a peut-être, s'il s'agit de faire des rapports, des connexions, des similitudes, ça traite beaucoup de l'inquiétude et d'aspects crépusculaires. Tous les westerns sont crépusculaires, par définition. Ils décrivent tous une grande mélancolie, l'idée d'un monde qui finit. Et dans la science-fiction, il y a aussi une grande inquiétude du monde qui va venir. C'est presque toutes les histoires de science-fiction, il y en a tellement qu'on ne peut pas les embrasser d'un seul coup, mais c'est quand même c'est très anxiogène. C'est rarement, c'est pas des histoires, par définition d'histoire, généralement ça crée des questionnements, les angoisses de l'homme, mais c'est un univers très 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 anxiogène sur le devenir de ce qu'on est, la place qu'on a. Et le western c'est l'anxiété d'une société qui finit. C'est toujours crépusculaire, c'est toujours des gens qui sont et qu'est-ce qu'il va y avoir, qu'est-ce qu'il va y avoir après, comme si c'était y a l'idée de paradis perdu existe dans ces deux domaines, la quête d'un paradis et d'un paradis qui finit, mais qui en réalité n'existe pas, parce que le paradis n'existe pas, il est introuvable. Et ça, c'est assez intéressant, la science-fiction, déjà chronologiquement, bien après le western, et elle a été traitée historiquement dans le XXe siècle. C'est marrant c'est amusant de voir le parallèle qu'il peut y avoir de passage dans l'imaginaire de l'un à l'autre, qui sont deux grands genres comme ça, qui sont vraiment basés sur l'imaginaire avec voilà, très. Différent du film noir, différent du polar, différent de la PDP, de la fantasy, ce qui sont encore d'autres. On puise. C'est deux imaginaires très très forts. Enfin, le western est très très fort. Et sur des choses qui sont très petites, très très concrètes, alors que la science-fiction est très vaste. Mais c'est effectivement, il y a un lien sur laquelle. C'est des choses, c'est des histoires très. C'est des gens très très anxiogènes. Très anxiogène sur le devenir de l'humanité. En fait.
Quand vous écrivez de la science-fiction, vous avez cette sensation que vous écrivez de la littérature anxiogène.
Disons qu'il y a un aspect, oui. Il y a un aspect paradis perdu, c'est vrai. Mais il y a, pour ma part, je ressens plus un élan, en fait. C'est plus enthousiasmant qu'anxiogène, on va dire. Maintenant, je ne sais pas comment les gens perçoivent ce que j'écris. C'est vrai que j'écris aussi des nouvelles assez sombres, donc qui peuvent être très anxiogènes, on en a déjà discuté une fois. Il y a un aspect, par exemple, dans Vestige, c'est sombre, en fait. C'est vrai que c'est un texte qui est sombre, qui va graduellement vers la lumière, mais qui passe par beaucoup d'étapes de perte, en fait. Donc effectivement, il peut y avoir un aspect anxiogène assez fort, mais qui, pour moi, enfin, l'aspect merveilleux et qui transcende tout ça est au-delà de ça, pour moi. Alors, je ne sais pas les lecteurs ce qu'ils en pensent. Oui.
Anxiogène ?
Oui.
Non, pour moi, c'est avant tout des aventures humaines ou extra-humaines, puisqu'il y a des gens qui viennent. Et qu'est-ce que c'est qu'un homme ? On peut découvrir ce que c'est qu'un homme en écrivant quelqu'un qui n'en est pas un, qui vient envahir cette planète aussi. Et puis, oui, bon, y a quelques problèmes qui sont difficiles à résoudre et qui, effectivement, peuvent être anxiogènes. Mais je pense que le western, c'est avant tout des histoires humaines. Je trouve que maintenant, c'est devenu un petit peu, il y a le héros qui est capable de tout faire. Mais je me rappelle des westerns que je voyais avant. Le héros, quelquefois, il était un petit peu dans les 36e dessous, enfin bon, alors que maintenant c'est fini, ça n'est jamais dans les 36e dessous, c'est lui qui gagne, bon, et hop.
et on sait d'avance que ça va mal se terminer pour le mauvais. Je trouve ça un peu dommage. Mais moi, je pense que pour en revenir un petit peu à ce qu'on appelle espèce opérant, je rapprocherais beaucoup plus ça des voyages de la Pérouse ou des gens comme ça que du western. Quoi. Et je pense que les découvertes des îles qu'ils ont faites avec les peuples qui vivaient dessus, ça a dû être quelque chose à peu près équivalent à ce que pourrait être quelqu'un qui arrive sur la planète habité par quelqu'un d'autre. Quoi. Vraiment, là, oui. Alors que le western, et le western me pose une question, parce que la plupart des gens qui ont lutté contre les Indiens, etc., venaient d'Irlande, ils avaient fui l'Irlande à cause de la famine, et ils avaient été chassés de l'Irlande par les Anglais, et ils se sont conduits avec les Indiens, largement aussi bien que les Anglais vis-à-vis d'eux. Alors, ça aussi, c'est, je pense que ça apporte une réflexion sur ce que c'est que l'homme.
Il y a quelque chose aussi, oui.
Oui, je voulais aussi ajouter quelque chose, c'est le problème justement de la communication. C'est un problème justement qui est souvent traité dans la science-fiction, mais on trouve justement comme dans la Pérouse, justement, ces découvertes en Polynésie ou dans toutes ces îles, ou avec les Indiens, etc. Et c'est un truc qu'on trouve dans la science-fiction, ou par le niveau de style, voilà. C'est comment communiquer, quoi. Et ça, c'est un problème justement très humain. Et comment on fait quand on ne peut pas communiquer quand on a cette incapacité à communiquer.
Ils s'y sont arrivés. Dans tous les voyages de gens comme ça, comme la Pérouse, etc., ils sont arrivés à communiquer avec les gens qui ne parlaient pas la même langue qu'eux, qui n'avaient pas la même culture qu'eux, etc. Ils sont arrivés à communiquer. Alors, je ne sais pas, moi, je n'ai jamais vécu ça, mais c'est étonnant. Et c'est un peu rassurant sur les capacités humaines. Et les Indiens, dont on parlait tout à l'heure, avaient inventé... Parce que moi, j'ai été frappé quand j'étais petit, je suis allé à la grotte de Cro-Magnon. Alors on nous faisait voir des crânes d'hommes de Cro-Magnon, c'est les mêmes que nous. Quelqu'un, on est tous des hommes de Cro-Magnon. Un homme de Cro-Magnon maintenant rasé, d'ailleurs ils étaient peut-être rasés, habillé comme nous, on le reconnaît pas. Et qu'on sort de la grotte et il y a un mec avec des grands bras, en train de regarder en l'air comme ça, avec une tête de singe. Faut arrêter le délire. Bon, on est arrivé en Amérique du Nord, les Indiens ne connaissaient pas, ils étaient à l'époque de la pierre.